Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard et vous écoutez Sans détour à l'antenne de Canal M. Aujourd'hui, 7 février 22, on commence à être de l'autre côté de l'hiver. Les journées allongent un petit peu. Il me semble qu'entre le 7 décembre et le 7 avril, je préfère le 7 avril. Alors, dans 2 mois, ça s'en vient. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler à M. Pierre Hyperciel, qui a publié récemment une lettre ouverte dans Le Devoir au sujet de l'approche sociétale. À l'avenir des personnes âgées dans notre société, comment en prendre soin, comment les laisser aussi plus autonomes. Nous aurons le plaisir de nous entretenir avec Mme Joanne Bélanger, psychologue clinicienne qui a vécu avec des troubles de santé sans diagnostic et dans le cadre du mois des maladies orphelines. Nous allons parler d'errance diagnostique. Nous allons aussi parler de la semaine de la canne blanche et nous allons faire un peu d'histoire avec notre collègue Christiane Campagna. Tout ça à Sans détour. Monsieur Pierre Hyperciel, bonjour, comment allez-vous?
Bien, nous allons bien, vous-même.
Bon, ça va très bien, je vous remercie. Vous avez publié dans Le Devoir une lettre ouverte, une lettre qui s'adressait en fait à la fois au gouvernement, mais dans un sens plus large à la société québécoise,
Oui. Où
vous vous interrogiez un peu sur le sort que l'on réserve aux personnes âgées et la façon dont nous avons de les institutionnaliser est-elle la bonne?
Oui.
Et j'aimerais vous entendre expliciter un peu votre point de vue, parce qu'on ne parle pas de médecine, là. Ici on parle de choix de société.
Oui, absolument. Je veux pas faire une entrevue de statistiques, là, mais je veux juste rappeler une réalité démographique pour partir.
Mm-hmm.
En 1996, là, les 65 ans et plus représentaient 12% de la population, c'est-à-dire un Québécois sur 8. En 2025, on représente 24% de 65 ans et plus, donc c'est 1 sur 4. Alors, il y a une réalité sociale, là, qui est immense, et il faut trouver comment on aborde cette question-là. Est-ce qu'on veut institutionnaliser les gens, ce qui coûterait une fortune, ou est-ce qu'on veut leur permettre de vivre à domicile le plus longtemps possible? Moi, j'ai 82 ans, je pense nullement à une
solution
institutionnalisation. Je veux rester à domicile,
mm-hmm.
et peut-être qu'un jour, j'aurai besoin un peu d'aide. Mais je sens pas, moi, que actuellement les gouvernements, depuis 30 ans, ont pris en compte cette réalité-là. Le maintien à domicile, historiquement, était un petit peu, d'une certaine façon, un suivi à l'hôpital. On faisait en sorte que les gens sortent de l'hôpital et s'en aillent à domicile, puis on leur apportait de l'aide. Aujourd'hui, je trouve qu'il faut... Il faut regarder ça au contraire. Ce n'est pas un projet hospitalier, c'est un projet de société.
Mm-hmm.
Et ce projet de société-là, moi, je ne l'ai pas entendu encadré, défendu dans un contexte de loi.
On l'a entendu souvent, mais pas beaucoup au-delà de l'entendre.
Ben voilà. Et moi, je pense qu'il faut reconnaître cette réalité-là sociale, en faire une réalité sociale. Et on est capable de définir par loi ce qu'on entend par un hôpital. Pourquoi on ne serait pas capable de définir par loi l'orientation qu'on peut avoir par rapport au maintien à domicile, en faire un projet de société, établir là-dedans les budgets, établir des droits, établir des procédures. Et je ne sens pas de gouvernement qui a pris cette question-là au sérieux. Je disais dans mon article que j'ai du respect pour la CAQ, là, mais le seul projet par rapport à cette réalité-là que j'entends, c'est la fameuse maison des aînés.
Mm-hmm.
Oui, mais écoutez, la maison des aînés, là, il y a des questions immenses là-dessus. Là. D'une part, c'est rendu à peu près à 1 million par personne en termes de construction. Mm-hmm. Ça va coûter une fortune.
Oui, exact. Alors qu'on a déjà des infrastructures qui ne font pas l'affaire, qui peut-être pourrait être mise à niveau et auquel on pourrait donner une autre fonction?
Bien, c'est ce que je pense. Moi, je me dis, au lieu de mettre dans le béton cet argent-là, développons deux choses. Mettons à niveau les centres d'accueil qu'on a, là, qui sont devenus malheureusement des centres hospitaliers de longue durée, qui au départ étaient des centres d'accueil. Mettons ce réseau-là à niveau. Et on a besoin d'aide là-dedans. Juste un petit cas particulier. C'est pas réfrigéré, c'est pas climatisé l'été. Bon, ça coûte pas des milliards climatiser les centres d'accueil. Alors, pourquoi on commencerait pas par mettre ces établissements-là à niveau et en même temps, pourquoi on ne mettrait pas en place un vrai programme de maintien à domicile? Pas une promesse électorale, là, encadrée dans une loi. Mais vous savez, à mon âge, j'ai parfois souvenir d'une époque où il y avait un ministère de la Santé et un ministère des Affaires sociales. Et bon, tout a été fusionné, puis c'est la santé qui a pris toute la place. Mm-hmm. Mais oui. le ministère des Affaires sociales, là, peut-être qu'il faut, je ne dis pas qu'il faut ressusciter ça, là, je ne suis pas nostalgique, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait une mission sociale prise en charge par un ministère. Je suis toujours frappé, par exemple, la DPJ, ça relève du ministère de la Santé, mais ça n'a rien à voir là, voyons donc, ça relève du ministère de la Santé.
C'est très social comme problématique.
Alors, je me dis, on est là-dedans, là, et je sens pas, de la part des partis politiques, là, puis autant chez les libéraux que tous les autres, là, je sens pas qu'il y a quelqu'un qui dit, il y a un projet de société qui s'appelle maintenir les gens à domicile. Je sens pas ça. Mm-hmm. On entend aux élections, ben vous savez, on a mis 300 millions dans le maintien à domicile, mais c'est pas ça qu'il faut. Il faut plus d'argent, mais il faut surtout un choix social.
Ben, si je vous écoute à premier abord, si je suis un proche aidant, ça me fait frémir un peu parce que le maintien à domicile, ça veut dire on va donner des crédits d'impôt aux proches aidants, puis on va les laisser se débrouiller. Puis alors, c'est comme un ou l'autre, ou bien c'est une institutionnalisation qui est très lourde et qui prive d'autonomie les gens qui y sont, ou bien on les envoie dans leur milieu familial avec une tape dans le dos.
Oui, et évidemment, on ne peut pas juste les envoyer dans le milieu familial. Il faut créer un ensemble de services autour de ça. Mais moi, j'ai évité des pays où on avait fait ça, Chaland Suède, par exemple. Bon, et il y a des programmes de maintien à domicile là, qui sont extrêmement bien définis. Et les gens, les Suédois, sont beaucoup moins institutionnalisés que le sont les Québécois. Vous savez, je donne juste un petit exemple.
Allez-y.
Moi, j'ai une amie dans mon village ici là qui a 82 ans. Qui est en bonne santé, qui est maintenu à domicile, mais qui a besoin, une fois tous les trois mois, de faire des prescriptions sanguines, là, des prélèvements sanguins. Elle n'a pas de voiture. Mm-hmm. Et c'est à 12 kilomètres d'ici, là. Comment on ne peut pas penser qu'un vrai programme de maintien à domicile permettrait à cette personne-là d'avoir une infirmière, une fois par trois mois, qui vient faire les prélèvements chez elle? Il y a des petites mesures comme ça, qui ne coûtent pas une fortune, mais qui permettent aux gens de vivre en sécurité dans leur domicile et vivre le plus longtemps possible dans leur domicile.
Dans la lettre que vous avez publiée, enfin, qui a été publiée dans les journaux, vous parlez à la fin de votre texte du concept de centre de jour.
Oui.
Peut-être nous élaborer un peu là-dessus.
Bien, un centre de jour, c'est un endroit physique où les gens qui demeurent à domicile peuvent trouver des services. Mm-hmm. Que ce soit, par exemple, de l'activité physique, que ce soit de l'aide alimentaire, que ce soit des popotes déplacées, il y a une foule de services qui peuvent être disponibles, qui permettent aux gens de rester à domicile, mais d'avoir accès à des services de base, physiothérapie, logothérapie, etc., socialisation, rencontrer des gens. Ces centres-là ont connu un petit peu de succès il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, et là, on n'en parle plus. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que tous les gens ont des ordinateurs, là, mais ça ne règle pas le problème de socialisation. Moi, j'avais été frappé, je le dis dans mon texte, en Suède, toute personne n'était jamais plus loin que de 500 mètres d'un centre de jour à cette époque-là, où on pouvait trouver des services. Ça me semble avoir disparu actuellement. Là. Il y aurait quelque chose à recréer. Est-ce que c'est un centre de jour, je ne sais pas comment l'appeler, je ne sais pas exactement ce qu'il ferait, mais qui permettrait aux gens à domicile d'avoir accès à des services plus facilement sans être obligé de se déplacer à 20 km.
Parce que c'est sûr que dans le continuum de l'existence d'une personne qui, comme tout le monde, vieillit, mais il y a à un moment donné, petit à petit, la perte d'autonomie commence à se caractériser par un peu plus de besoin de ceci ou de cela.
Oui.
Alors, oui. Votre idée est que les gens puissent trouver cet appui-là sans nécessairement du jour au lendemain être institutionnalisés.
Voilà, parce que les chiffres sont évidents. Ça coûte beaucoup moins cher maintenir quelqu'un à domicile, quitte à lui envoyer certains services. Je donne un autre exemple. Lorsqu'une personne âgée n'est plus en mesure de déblayer sa cour, oui, puis de couper son gazon, ça coûte pas des millions de lui donner de l'aide matérielle. Ça la rassure et ça fait en sorte qu'elle peut continuer à demeurer à domicile. Mais c'est ces gammes de services-là qu'on n'arrive pas à définir. Et on n'arrive pas à les encadrer dans un contexte légal pour dire aux gens, écoutez, vous avez droit à ça. C'est cette aide-là qui permet à des gens de rester à domicile. Par exemple, l'alimentation, c'est un facteur de premier niveau, ça.
Oui.
Bon, est-ce qu'il faut penser à des popotes roulantes ou quelque autre système qui fait en sorte qu'une personne âgé à domicile puisse avoir quelques fois par semaine des repas à domicile? Il y a une série de mesures comme celle-là qui ne coûtent pas des milliards, mais qui permettent aux gens de rester à domicile. Parce que pour moi, l'institutionnalisation, c'est pas un projet de société.
C'est le dernier recours. C'est au moment où ça devient vraiment lourd et difficile. C'est là que l'aspect médical prend le pas sur l'aspect du travailleur ou de la travailleuse sociale. Et pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. Ça suppose une certaine décentralisation, une politique comme celle-là. Il va falloir mettre les municipalités, les CLSC de la partie, parce que on parle de beaucoup de services de proximité, finalement.
Oui, il faut que les municipalités entrent dans ce projet-là. Mais j'ai développé aussi, puis vous l'avez mentionné dans mon texte, pour moi c'est le travailleur social qui est le maître d'œuvre là-dedans. C'est lui qui est le plus en mesure d'évaluer la situation sociale, est-ce qu'on peut permettre à la personne de rester chez elle. Et je me permets de rappeler une chose aussi, si vous permettez.
Oui.
Le docteur Hébert, qui était un ancien ministre de la Santé, qui est un des ministres qui croyait beaucoup à cette question du maintien à domicile, il vient de publier un article dans la presse la semaine passée qui dit que dans la deuxième ou troisième vague du COVID, il y a eu plus de décès à domicile que dans des CHSLD.
D'accord.
Ça aussi, ça fait partie de la réalité.
Ça fait partie de tout à fait. Mais nous allons devoir nous arrêter là-dessus, M. Hyperciel. C'est un débat de société, comme vous dites. C'est pas une question. La loi ou le cadre qui va suivre sera une chose, mais avant d'y arriver, il faut d'abord se regarder collectivement face à face dans le miroir et se demander qu'est-ce qu'on veut faire du cadre de notre population qui va avoir besoin à la fois de soutien, mais en même temps de dignité.
Oui.
Je vous remercie beaucoup d'être intervenu, d'avoir jeté un pavé dans la mare. Voilà.
Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Au revoir.
Sara Mari, Jimmy, you're the
Aoula Guinée Alcaline, c'est du Touareg. En gros, ça veut dire « j'accueille mon pays ». C'est un peu la complainte de quelqu'un qui est déplacé, qui est loin de ses origines. Cette chanson fait partie, en fait, du répertoire du collectif musical qui s'appelle « Playing for Change », « Musique pour changer ». C'est une idée qui est venue à Mark Johnson au début des années 2000, où il a pris la même chanson, mais avec superposer les interprétations de plein de gens de toutes sortes de coins du monde. Et le but de l'affaire est de ramasser des fonds pour permettre de créer des écoles de musique. La pensée étant que la musique va être un pont qui va permettre aux humains de se rapprocher, aux humains et aux humaines, d'oublier leurs différences. Alors voilà, c'est une belle histoire. Ceci dit, en voilà une autre belle histoire, Mme Campagna, que vous allez nous conter.
Oui, ben cette semaine, pour les gens qui l'ignorent, d'abord, on va préciser un petit peu le contexte, c'est la semaine de la canne blanche qui est une semaine canadienne, en fait. Et je me demandais, jusqu'à tout récemment, j'avais de la difficulté à trouver les dates, et là, on m'a expliqué comment ça fonctionne.
Oui.
C'est que c'est la première semaine complète de février.
Ah, OK. C'est un peu comme Pâques, ça change d'une année à l'autre.
Voilà. Donc, semaine commençant le dimanche. Mm-hmm. Nous sommes donc en pleine semaine de la canne blanche depuis hier.
D'accord.
Et bon, la canne blanche, qui est vraiment un objet qu'on identifie aujourd'hui de, presque automatiquement, aux personnes ayant un handicap visuel, comme bien des inventions, ses origines sont débattues.
Aha.
De la poutine au téléphone, on a toujours...
qui a inventé la première poutine? Ça, évidemment, c'est intéressant, mais c'est moins fondamental que la canne blanche,
exactement,
parce qu'elle est universellement reconnue comme étant un symbole d'autonomie et d'indication, de déclaration de notre situation d'handicap.
Oui, mais dans l'histoire des inventions, il y a souvent des histoires qui sont un peu simultanées, qui souvent se ressemblent. Puis évidemment, il y a deux hypothèses qui pourraient expliquer ça. Des fois, il y a des choses qui sont dans l'air du temps.
Oui.
Et on finit par avoir plusieurs personnes qui invente la même chose à peu près au même moment. Dans le cas de la canne blanche, cette ère du temps-là, ben, c'est tout ce qui fait suite à la Première Guerre mondiale et à l'utilisation des gaz qui avaient fait que beaucoup de soldats se sont retrouvés avec des problèmes de vision.
Mm-hmm.
Et puis, d'autres fois, ben, c'est peut-être qu'en fait, il y en a un qui l'a inventé et ça s'est répandu. Mais des fois, la personne qui invente n'est pas la même personne qui est la meilleure pour
en faire la promotion
d'invention. Alors, dans le cas de la canne blanche, le premier nom qu'on voit passer est celui d'un Britannique qui s'appelle James Biggs, qui habitait à Bristol et il l'aurait inventé vers 1921.
D'accord.
Alors, il a voulu quelque chose pour être plus visible des automobilistes dans le trafic.
Mm-hmm.
Mais le nom pour lequel on trouve le plus d'informations et l'histoire la plus étoffée, ça se passe en France, un tout petit peu plus tard, mais à peine. Et c'est Madame Guilly d'Herbemont.
Oh, c'est joli, Guilly d'Herbemont, là. Ça vous place dans la société.
Ben, c'était une comtesse. C'est un petit nom de noblesse. Alors, c'est une Parisienne fortunée qui habitait près d'une école que fréquentaient des personnes aveugles.
Mm-hmm.
Et il y avait une intersection importante à cet endroit-là. Et vraiment, elle était morte de peur de les regarder essayer de traverser la rue.
Parce que là, il n'y a pas de canne blanche. Alors, la personne aveugle qui essaie de traverser, l'automobiliste, n'a aucune idée de la vulnérabilité du piéton, là.
Oui, et il n'y avait pas de feu de circulation tout court. Hein. On ne parle même pas qu'il n'y avait pas de feu sonore, là. On dit qu'il n'y avait pas de feu de circulation.
Okay.
Alors, voilà. une
section
importante où les voitures n'arrêtent pas ou arrêtent à peine, font un stop. C'était vraiment un enjeu. Et son inspiration serait venue parce que certaines intersections, il y avait des policiers qui faisaient la circulation.
Mm-hmm. Oui, oui.
Et pour se faire voir, ils utilisaient des bâtons blancs.
Ah, d'accord.
Donc, elle s'est dit, si les automobilistes sont habitués à réagir...
Mm-hmm. Comme des chiens de Pavlov, là, ils voient un bâton blanc qui s'élève, ils arrêtent. C'est bon, ça. Oui.
C'est ça. Donc, c'est pour cette raison-là qu'elle aurait eu cette idée de fournir des bâtons blancs aux personnes qui avaient un handicap visuel. Alors, à ce moment-là, on ne parle pas encore de l'utiliser pour se guider.
Ah, c'est pas une canne qui est pointée vers le bas. C'est un peu comme le bâton du gendarme exact qu'on lève comme un écriteau, là. Un peu comme le brigadier scolaire avec sa petite palette de ping-pong rouge.
Ben, c'est un peu ça, dans le sens où, dans les diverses fonctions que remplissent aujourd'hui la canne blanche, la première a été celle de reconnaître que la personne qui s'apprête à traverser la rue est une personne qui ne voit pas.
D'accord.
Alors, pour faire connaître son idée, elle a contacté les autorités, mais aussi un grand quotidien de l'époque, l'Écho de Paris. Et elle a aussi organisé beaucoup d'événements bénéfices, publier des lettres d'opinion, contacter le préfet de police et elle-même va contribuer à financer l'achat de milliers de cannes blanches pour les distribuer.
Oh là là, c'est très généreux. Parce que c'est sûr que, un, il faut que la canne blanche devienne pratique courante. Alors, il faut qu'il y ait beaucoup de cannes blanches en circulation, d'une part, et d'autre part, il faut que les automobilistes soient au fait de la signification de l'objet.
Tout à fait. Et on parle d'une époque là où les moyens de communication sont plus limités. Donc, il y a eu vraiment des remises officielles avec ministres, des choses comme ça. Question de faire parler du phénomène. Et elle en a elle-même donné 5 000.
Oh, d'accord.
Et cette campagne-là sera couverte par les journaux britanniques.
Ah, d'accord. C'est comme ça que c'est sorti, c'est hors frontières.
Voilà. Et c'est en Grande-Bretagne, c'est le Rotary Club qui décide de reprendre cette idée et d'en faire la promotion. Et là, c'est la BBC qui va s'en mêler et qui va suggérer sur ses ondes aux personnes aveugles d'utiliser une canne blanche comme manière de s'identifier.
Mm-hmm.
Et peu après, la nouvelle va aussi se rendre aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est les Lions Club.
OK, les Lions Club qui ont un long historique d'aide aux personnes vivant avec un handicap visuel.
Tout à fait. On les voit aussi souvent impliqués quand on lit à propos de l'histoire des chiens guides.
Mm-hmm.
Alors, c'est eux qui vont répandre la canne blanche aux États-Unis. Alors, on dit que pendant plusieurs années, les utilisateurs là, se déplaçaient en la tenant en position fixe. Et c'était vraiment la position d'identification qui primait.
D'accord.
Et dans certains pays, même le fait de l'élever signalait qu'on voulait traverser.
Ah oui, d'accord, je comprends. Ouais, comme si on levait le bras pour hailer un taxi, ben là, on lève la canne blanche au carrefour, tout le monde s'arrête, c'est magique. Enfin, on espère.
On l'espère. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a le docteur Richard Hoover qui a développé la canne longue et ce qu'on appelle la méthode de déplacement Hoover. Mm-hmm. Et c'est à partir de ce moment-là que, tout en gardant son côté symbolique, la canne devient aussi une aide à la mobilité.
D'accord. Parce qu'il fallait aussi que, de la part des personnes aveugles, qu'il y ait ce désir de s'identifier dans la société.
Oui, c'est sûr que ça a été un enjeu à une époque où il y avait plus de stigmatisation. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que tranquillement, à la longue, l'enjeu de sécurité a pris le dessus. Et probablement que cette seconde fonction de la canne a aussi contribué à son essor, puisqu'elle devenait un objet pratique pour se déplacer, pour favoriser son autonomie.
Parce que c'est sûr que j'allais faire une mauvaise blague, mais si on lève notre canne blanche pour que la circulation s'arrête, mais qu'on manque la chaîne de trottoir, il y a quelque chose qui cloche.
Voilà. Donc, pour ce qui est de souligner l'histoire de la canne blanche, il y a la Journée internationale.
D'accord.
Qui, elle, est le 15 octobre. Et ça a été décrété en 1970 par l'Union mondiale des aveugles, qui à l'époque s'appelait la Fédération internationale. Mm-hmm. Et ça a été finalement adopté dans les journées internationales de l'ONU. Et au Canada, donc, cette semaine de la canne blanche en février, qui aurait été instaurée en 1947.
Ah, et c'est au Canada, c'est encore une fois la première semaine complète de février. Mais alors, Mme Guy d'Herbemont, on l'espère, c'est... Ces bonnes œuvres ont été reconnues, parce que c'est quand même, bien que M. Biggs ait eu peut-être, lui, l'idée en premier, mais s'il était tout seul à Bristol avec sa canne blanche, à moins d'être son voisin, sa vie était peut-être un peu en danger, alors que Mme d'Herbemont a été à la source, finalement, de l'universalisation de l'utilisation de la canne blanche.
Alors, je pense qu'elle avait des connexions que n'avait pas monsieur à Bristol, vu son statut social.
Et ses moyens financiers, tout ça.
Ses moyens financiers, le fait que, comme beaucoup de femmes de l'époque, souvent étaient déjà impliquées dans des œuvres caritatives, mm-hmm. tout ça a créé les circonstances pour que cette fois-ci, l'idée se répande pour vrai.
Bien, pour terminer sur une note culturelle, Mme Campagna, je me permettrais de souligner que Mme d'Herbemont était aussi poétesse et a remporté des prix de littérature, entre autres pour son poème « Les peupliers ». Donc, je vais vous lire les premiers vers. Alors, ça va nous inspirer et peut-être nous amener de l'autre côté de la pause. « Les hauts peupliers font leur prière debout le long des grands chemins, des fleuves, des canaux. » Si droit malgré les vents, si puissant et si beau. Ah ah, voilà. Merci, Mme Campagna.
Merci.
Écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour, le mois de février qui commence sera aussi le mois de zébrier. En effet, le regroupement québécois des maladies orphelines va commencer le mois de février sous le nom de zébrier. Pourquoi zèbre? C'est parce que souvent dans les diagnostics médicaux, les maladies rares ne sont pas immédiatement identifiées. Les médecins pensent en entendant des sabots qu'il s'agit de chevaux. Alors que parfois, il peut s'agir de zèbres. Et comme on ne pense pas aux zèbres, à prime abord, bien voilà, il y a des errances diagnostiques et parfois, ça peut être assez long pour qu'on puisse mettre un nom et comprendre ce qui nous arrive. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mme Joanne Bélanger, qui est psychologue clinicienne et qui a vécu avec des troubles de santé sans diagnostic pendant plus de 7 ans jusqu'à tout récemment. Bonjour Mme Bélanger, comment allez-vous?
Ça va bien. Bonjour, M. Beauregard. Ça me fait plaisir de pouvoir parler avec vous de l'errance diagnostique.
Parce que vous l'avez vécu aux premières loges, malheureusement. Là. Vous avez commencé par avoir des fourmillements dans le bout des doigts, mais c'était beaucoup plus que ça.
C'était beaucoup plus que ça. Et puis, plus je regarde pour prendre part au mois du zébrier, plus je retourne lire parce que j'ai souvent fait mon journal à chaque jour pendant des années. Et j'ai retrouvé que j'avais des symptômes beaucoup plus avant même
D'accord.
que la démarche commence pour arriver à un diagnostic. En fait, dans mon cas, je me disais, ça a duré 12 ans, puis hier, je relisais, et finalement, ça a duré 14 ans avant d'avoir un diagnostic. Oui, il y avait des fourmillements, il y avait éventuellement des tremblements, de la rigidité dans les muscles, et j'avais une maladie neurologique qui s'appelle la leucodystrophie. En fait, il y a plusieurs types de leucodystrophie. Dans mon cas, elle est d'origine inconnue parce que les médecins n'ont pas été capables, par la neurogénétique, de déterminer de quel gène ça relève ma maladie. Mais c'est une maladie évolutive et donc c'est souffrant là, de passer à travers l'errance diagnostique pendant autant d'années.
Parce que, au moins, si je puis le dire, aujourd'hui, il y a un nom que vous pouvez accoler à la maladie dont vous êtes malheureusement la victime. Enfin, la victime, vous devez vivre avec. Mais l'errance, elle, c'est plus douloureux parce qu'il y a cette incertitude, il y a cette incapacité à trouver de quoi il s'agit. Ça, c'est plus lourd à porter.
Vous avez tout à fait raison parce que, en fait, c'est vrai que d'avoir un diagnostic, même dans mon cas, j'ai eu l'impression l'été dernier quand finalement on était allé au bout des démarches, puis que les médecins, en se concertant et à la suite des tests neurogénétiques, ont déterminé que c'était de la leucodystrophie. Et là, c'est comme s'il y a eu un soulagement en disant, c'est fini d'essayer à gauche et à droite de trouver un diagnostic. Et c'est souffrant de ne pas savoir, parce qu'à travers ça, pendant la période d'errance diagnostique, la personne, le patient peut être appelé à passer de multiples tests. Il n'a pas les traitements nécessaires pour pouvoir être soigné adéquatement, pour pouvoir être soulagé dans ses douleurs. Il peut vivre de l'isolement aussi. Hein. Il n'est pas rattaché à aucun groupe, à aucune maladie. Il ne peut pas faire partie d'un groupe de soutien pour une maladie X parce que ce n'est pas encore trouvé. Et très souvent, comme vous dites, les médecins ne vont pas forcément penser que c'est une maladie rare. Et les gens vont en souffrir beaucoup. Parfois même, on va penser devant la multitude des symptômes qui ne peuvent pas être attachés à une maladie, que la personne souffre de quelque chose de psychosomatique, alors que dans les faits, elle peut avoir une maladie rare et ça n'est pas considéré.
Dans votre... Parce que vous êtes psychologue clinicienne aussi. Est-ce que ça vous a... Est-ce que par votre pratique, vous avez été en contact avec des gens qui ont passé par là aussi? Ou comment est-ce que ça a pu teinter votre pratique?
En fait, je vous dirais, j'en ai pas rencontré tant que ça. Mais c'est sûr, bon, moi, j'ai travaillé quand même avec des gens qui avaient de la douleur chronique, qui avaient toutes sortes de problématiques. Je vous dirais qu'à travers ma formation, ce qui m'a beaucoup aidée, c'était d'être réceptive, d'être sensible à leur détresse, de pouvoir accueillir ce qu'ils vivent, parce qu'ils ont beaucoup besoin de nommer la détresse qu'ils peuvent vivre, le temps que ça prend, l'inquiétude des proches autour d'eux. Et donc, pour moi, je pense que ça m'a aidée pour pouvoir peut-être tenter de mieux cerner ce qu'ils vivent. Et en même temps, je vous dirais, bon, l'écoute, c'est quelque chose. En l'écoute et pouvoir s'exprimer, on sait que la parole, c'est un grand pouvoir là pour pouvoir exprimer ce qu'on vit, exprimer notre détresse. Et d'ailleurs aussi, le regroupement québécois des maladies orphelines, qui veut cette année mettre l'accent sur l'errance diagnostique, est aussi là pour entendre ces patients-là, pour pouvoir, au besoin, tenter de les orienter vers des ressources qui pourront peut-être les aider davantage.
Parce que c'est ça, c'est quelqu'un qui est aux prises avec cette interrogation perpétuelle de « mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? » Avant que cette personne elle-même conclue que peut-être je souffre d'une maladie rare, et peut-être que l'investigation médicale devrait changer en conséquence. Il y a un grand laps de temps pendant lequel on ne sait tout simplement pas. Et de penser spontanément à un regroupement québécois des maladies orphelines, parce que c'est peut-être de ça dont il s'agit. On va errer dans le désert un moment avant d'y arriver. Là.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qu'on peut offrir? Quelles sont les mains tendues qui attendent les gens qui sont dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ou pour elles?
Je pense que que d'abord, il y a un atelier que j'ai animé aussi à la fin du mois. Je vais donner une conférence là-dessus aussi. Je pense que d'abord, c'est important d'être bien entouré par ses proches, pouvoir parler. Je vous parlais du regroupement québécois des maladies orphelines aussi. Ce qui est important aussi, et c'est dans ce sens-là aussi que le regroupement veut travailler, c'est de pouvoir orienter la communauté médicale, de pouvoir trouver aussi avec le gouvernement des moyens pour arriver plus rapidement à la pose d'un diagnostic. J'entendais Mme Gail Ouellet, qui est la directrice du regroupement, qui disait que pour les gens, ça peut être très long parce qu'on ne sait pas de quelle maladie ils souffrent. Mm-hmm. Et pour les médecins, ils ne vont pas forcément penser à une maladie rare et ça restera peut-être toujours un peu long de trouver le diagnostic, mais si la communauté médicale est sensibilisée, si le gouvernement travaille de pair pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un processus, un procédé qui soit moins long, ben je pense que ça va être une des mains tendues. Et en même temps, comme je vous disais, il y a le regroupement québécois qui peut des maladies orphelines qui peut offrir un soutien. Et c'est vrai en même temps, comme vous le disiez tantôt, que d'avoir un diagnostic,
Ça libère,
parce que même si c'est souffrant, on sait plus où on s'en va. Et même pour les gens, ils peuvent penser, ils peuvent savoir que mais c'était pas dans leur tête, parce que des fois, ils se font référer en psychiatrie ou ils se font dire que ça n'a pas de sens.
Oui, je peux comprendre que quelqu'un qui visite à répétition son ou sa médecin de famille ou l'omnipraticien est toujours avec des symptômes différents sur lesquels on ne peut jamais mettre le doigt. Là, il y a un danger de se faire étiqueter hypochondriaque. Hein? Sans méchanceté, c'est tout dans votre tête. Là.
Absolument.
Et c'est là que les proches aussi doivent aider, parce que si notre tissu social nous renvoie l'image comme quoi c'est notre problème, là, la détresse ne fait qu'augmenter.
Oui. Ou ne fait que nous juger et nous dire « Ah, ben tu t'en fais trop, tu te regardes trop », alors que dans les faits, il y a vraiment quelque chose. Et moi, je vous dirais, puis je le souhaite à beaucoup de monde, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que après toutes ces années-là, je vous dirais au bout de 12 ans, parce que ça n'a quand même pas fini à ce moment-là, il y a un nouveau neurologue que j'ai rencontré, et Dieu sait que j'en avais vu beaucoup. J'en voyais un qui me disait, j'en avais vu... D'abord, c'était très long d'avoir accès à un neurologue. Je n'ai vu une autre qui me disait, je ne sais pas ce que vous avez, qui me réfère à une autre neurologue. Et finalement, au bout de cette douzaine-là d'années, il y a un neurologue qui me suivait régulièrement, de 6 mois en 6 mois, ce qui fait que je repartais avec ma détresse, avec l'incompréhension, avec des symptômes qui augmentaient.
Oui.
Et bref, ce nouveau médecin-là s'est dit à un moment donné, ça vaut la peine de trouver de quoi vous souffrez, de quoi vous êtes atteint. Et il a parlé de mon dossier à une équipe multidisciplinaire. Mm-hmm. C'est à partir de là, donc avec d'autres neurologues, des radiologistes, neurogénéticiens, c'est à partir de là qu'ils en sont venus à un diagnostic. Et comme je le disais tantôt, ça a été un grand soulagement et de savoir que, justement, ce n'était pas dans ma tête. Il y avait vraiment quelque chose et je le sentais dans mon corps.
Oui, oui, donc, parce que c'est votre douleur est réelle ou vos tremblements ou les raideurs musculaires, en fait, dans le cas de
la maladie.
Une chose, pour quelqu'un d'autre, ça peut être tout à fait différent comme symptôme, parce que bien que des maladies soient rares ou orphelines, il y a quand même au final beaucoup un nombre non négligeable de gens qui vivent avec cette situation-là.
Oui, parce que si on y pense, j'entendais aussi là dans le webinaire de Mme Ouellet, qui a à peu près comme 7000 maladies rares. Donc, si on pense aux 7000 maladies rares, il y en a vraiment pas beaucoup qui vont l'avoir. Mais ça fait quand même, si on pense même à travers la province, il semble qu'il y a des milliers de gens qui vivent avec une maladie rare. Hein. Alors, oui, ça fait beaucoup de gens qui vivent avec cette souffrance-là et c'est non négligeable, là.
Est-ce qu'il semble y avoir une acceptation par une nouvelle génération médicale du fait que les maladies rares sont en soi une possibilité de diagnostic? Est-ce que ça semble maintenant faire son chemin un peu, cette idée-là?
Peut-être, mais je crois comprendre qu'il y a encore une fois, ce que j'ai entendu par le regroupement, qu'il y a quand même beaucoup de médecins qui ignorent les maladies rares ou qui ont peu de connaissances là-dessus. Mm-hmm. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer. Vous savez, même, je vais rester vague là, dans mon exemple, mais il y a à peine un mois, je devais rencontrer un médecin dans une autre branche, la neurologie. Et on m'avait dit, cette personne-là est très connaissante, c'est une sommité. Et quand je suis entrée dans son bureau, cette personne-là avait eu la référence que je venais comme quoi j'avais de la leucodystrophie. Et elle m'a demandé qu'est-ce que c'est de la leucodystrophie.
Oui, c'est ça.
Et là, je me suis dit, c'est moi la patiente.
C'est vous la spécialiste maintenant.
Expliqué que ça s'apparentait à la sclérose en plaques, mais ce n'est pas de la sclérose en plaques,
Mais peut-être que finalement, le bonheur que vous avez eu de rencontrer un médecin qui a travaillé de concert avec d'autres, peut-être que la solution est là, au lieu de demander à tout le monde de tout connaître, ce serait plutôt de faire du brainstorming assez rapidement dans le processus pour déterminer s'il pouvait s'agir d'une maladie rare. Madame Bélanger, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous puis de partager ça avec nous. On rappelle que pendant tout le mois des zèbres, pendant le zébrier 2022, il y aura des zébinaires organisés par le Regroupement québécois des maladies orphelines. Vous en piloterez un, entre autres, le 26 février. Mais en allant sur le site du Regroupement québécois des maladies orphelines, on pourra en apprendre davantage. Merci, Mme Bélanger.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous.
Vous de même.
Merci.
va pleuvoir.
Before the Rain, de l'harmoniciste Lee Oscar. Lee Oscar qui avait commencé sa carrière musicale avec le groupe War dans les années 70. Before the Rain, on a entendu la deuxième moitié de la pièce parce que le temps nous manque, mais je vous suggère de l'écouter au complet, l'album éponyme Before the Rain. Voilà. Ben, la pluie, c'est pas pour tout de suite, non. Voilà, il va neiger avant et on est en février et février, c'est le mois la semaine de la canne blanche et Mme Campagna de retour avec nous pour nous en parler. Bonjour, rebonjour.
On a remonté l'histoire de la canne blanche.
Oui.
Maintenant, on va voir comment les organismes d'ici soulignent
aujourd'hui
la semaine de la canne blanche.
Mm-hmm.
Alors, du côté de la Fondation INCA, on a décidé de profiter de cette semaine pour faire un retour sur les requêtes aux provinces pour s'assurer que leur stratégie de vaccination, de passeports vaccinaux, de dépistage, que tout ça soit accessible aux personnes ayant une limitation visuelle. Donc, tout au long de la semaine, notamment sur leur page Facebook, ils vont nous faire part des enjeux, de leurs demandes des derniers mois, des réponses des gouvernements et des solutions qui auraient été mises en place. Donc, si vous voulez suivre leur page Facebook, là, c'est facebook.com/mapageinca en un mot.
Ma page INCA, OK.
Oui. Et du côté du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, ben c'est aujourd'hui que l'organisme dévoilait les gagnants de ses prix coup de cœur et coup de gueule,
mm-hmm.
après avoir fait un sondage là, auprès de leurs membres. Alors, ça vise à mettre en lumière les initiatives qui constituent une avancée et mm-hmm. à dénoncer les situations qui entraînent un recul en matière d'accessibilité. L'organisme rappelle qu'il y a près de 200 000 personnes qui sont aveugles ou malvoyantes au Québec.
C'est beaucoup.
Et qu'il faut penser à les inclure et en rendre tout accessible, produits, services ou communications.
Des noms, on veut des noms.
Oui. Alors, le coup de cœur 2022, c'est la série 6 degrés de Simon Boulris qui a été diffusée par Radio-Canada, qu'on peut aussi voir à mi-télé.
Oui.
Pour sa représentation d'un personnage principal ayant une déficience visuelle, qui permet de mieux comprendre la situation des personnes aveugles ou malvoyantes. Alors pour ça, ça a été un grand coup de cœur pour la diversité à la télé québécoise. Et parce que, bon, c'est pas mentionné dans le prix, mais on en avait déjà parlé, que même s'ils n'avaient pas réussi à trouver un acteur mm-hmm. en situation de handicap, ils ont vraiment fait leur devoir.
Oui, pour qu'il y ait un réalisme, tout à fait.
Exactement. Et Laurent, bon, on félicite quand même aussi les trois autres finalistes qui étaient... Lauriane Langis pour son adaptation d'un atelier de danse contemporaine, les cinémas Cinéplex pour le dispositif Fidelio, qui est un système de vidéodescription, et les spectacles de danse en audiodescription signés par Densité pour leur accueil, la qualité de l'adaptation et la démarche inclusive derrière le projet.
Ça, il s'agissait des coups de cœur, les oranges, voilà.
C'est ça. Maintenant, les prix citrons. Les coups de gueule. Le coup de gueule 2022, ce sont les plateformes Clic Santé et VaxiCode du gouvernement du Québec. Le site Clic Santé, c'est récolter vraiment la colère des personnes qui votaient en rendant impossible pour les personnes aveugles et malvoyantes de prendre rendez-vous pour un vaccin contre la COVID-19. L'accès à Clic Santé ne devrait pas être une question de privilège, souligne Pascale Dussault, la directrice du RAM. Et donc, c'est une plateforme qui crée de l'exclusion numérique et va à l'encontre des standards d'accessibilité du web du gouvernement du Québec.
Oui, tout à fait. Et ça, je pense que si on faisait un sondage auprès des personnes handicapées visuelles, ça ne me surprend pas que ce soit le premier sujet.
Oui, mais surtout que ça touchait beaucoup de gens.
C'est universel, voilà.
Tout le monde au Québec. Parmi les finalistes pour ce coup de gueule, il y avait aussi la Ville de Longueuil, la Ville de Montréal, ainsi que la plateforme de covoiturage Amigo Express, qui ont toutes été nommées pour l'inaccessibilité de leur plateforme web. Alors, c'est vraiment beaucoup du côté du web que le bas blesse en accessibilité des personnes non-voyantes.
Mm-hmm.
Mais on vit dans une société où tout se fait maintenant de cette façon-là.
Et avec la pandémie depuis 2 ans, on dépend davantage pour notre information de tout ce qui se passe sur le web. Là, on est isolé. Chacun chez soi, d'une certaine manière. Alors, c'est encore plus évident, cette dépendance. Et à ce moment-là, le manque d'accessibilité devient criant.
Exactement. Du côté du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec,
mm-hmm.
Cette semaine, on nous invite à participer à un webinaire sur l'étude de l'effet des masques sur l'orientation et la mobilité. Mm-hmm. Parce qu'au début de la pandémie, plusieurs personnes qui avaient une limitation visuelle ont rapporté se sentir désorientées lorsqu'elles mettaient un couvre-visage et il n'y avait pas de données à ce sujet. Alors, le RAC a approché le ministère de la Santé et des Services sociaux pour entreprendre un projet de recherche sur le sujet qui a regroupé plusieurs partenaires, l'INLB, le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, l'École d'optométrie de l'Université de Montréal, le ministère de la Santé et Services sociaux, ainsi que le RAC. Et là, ça se passe pour avoir les résultats ce mercredi 9 février à midi. Quand vous vous inscrivez, on vous envoie le lien Zoom pour pouvoir participer à l'événement. Et la présentatrice sera Mme Chantal Crédy de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Alors, vous allez du côté du site web du RAC ou du leur page Facebook et vous allez avoir un lien vers leur formulaire d'inscription qu'on peut trouver donc aussi à raaq.qc.ca/inscription.
Alors, on peut s'y inscrire. Ça ne coûte rien, mais il faut évidemment mettre son nom pour qu'on puisse participer à la présentation virtuelle. Et ça, c'est mercredi.
Oui, mercredi à midi.
Parfait.
Puis là, ben, je ne suis plus dans la semaine de la canne blanche, mais quand même, on va aller faire un petit tour du côté de la fiction, encore une fois.
Mm-hmm.
Un autre bon coup. Il y a une chaîne de médias TV Line qui s'apprête à lancer un reboot d'une série qui avait été très populaire au début des années 2000 qui s'appelait Queer as Folk, qui était comme un groupe d'amis, une famille choisie, si on veut, où tout le monde était, bon, soit gay de la famille LGBTQ+. Et là, dans cette nouvelle version, on vient d'annoncer que dans le groupe se joindra l'acteur Niall DiMarco, qui est un acteur qui a aussi été mannequin. On l'a connu par une télé-réalité de mannequin. Ensuite, il a participé à Dancing with the Stars. Il est sourd et il vient d'une famille où ils le sont. Là.
Une famille
ses parents sont sourds, ses frères et sœurs sont
d'accord,
sourds, ses grands-parents sont sourds. Et comme il est aussi gay, c'est aussi un activiste pour les deux groupes.
D'accord.
Alors, il se joint à la distribution.
Et est-ce que ça va porter le même titre? Ça va s'appeler Queer as Folk?
As Folk,
oui. As Folk.
Et je lisais la distribution, ceux qui étaient déjà là, auxquels il allait se joindre. Et il y a un autre acteur en situation de handicap, qui est Ryan O'Connell, qui est le créateur de la série Special.
Oui.
Qui lui aussi est une personne geek, mais qui vit avec une légère paralysie cérébrale.
Mm-hmm.
La série Special racontait un peu, c'était une semi-fiction, là, qui racontait un peu son histoire. Alors, je trouvais que c'était intéressant. On va avoir deux acteurs en situation de handicap dans une série dont le handicap n'est pas le sujet.
Principal. Ah, voilà, exactement. C'est là où on marque encore plus de points. Ça va être disponible sur une plateforme qui s'appelle TV Line.
Bien, c'est TV Line qui l'a produit. Ça va être distribué sur Peacock, qui est une plateforme de
NBC.
Télé en continu, qui malheureusement, pour l'instant, n'est pas disponible ici.
Ah, okay.
Alors, reste à savoir s'il y aura une licence à une autre...
un distributeur canadien.
Canadien. Parfois, il y a des séries qui ne sont pas sur Netflix aux États-Unis parce qu'ils sont sur une autre plateforme, mais qui sont données à Netflix ou à Amazon TV ou quelque chose ici pour des raisons là, de...
De contrat.
Oui, exactement.
Il y a des restrictions géographiques parfois. Voilà. on espère que ce sera disponible. Des fois, c'est comme plus ou moins repiqué sur YouTube. Là. Ça aussi, ça peut... On peut finir par le retrouver quand si on fait un peu d'effort. Oui, voilà.
Et maintenant, en France, on a fait un sondage sur les violences sexuelles et on s'est rendu compte que les Français sous-estiment grandement les violences envers les personnes en situation de handicap. Un bon 18% des répondants disaient qu'il est rare qu'un violeur s'attaque à une personne handicapée. Puis en fait, ça s'inscrit dans un préjugé plus vaste que ça qui... On a souvent aussi dit ça des personnes grosses ou des personnes qui sont peut-être moins d'une beauté typique.
Oui, oui.
Parce qu'on associe le viol au désir sexuel.
Oui, ça c'est... Franchement, là, c'est quelqu'un qui ne comprend pas la mécanique de l'agresseur ou du prédateur sexuel. Là. C'est beaucoup plus la vulnérabilité puis l'occasion qui s'offre.
Le pouvoir est plus important que le désir dans ces cas-là. Alors, c'était donc les résultats d'une étude menée par un groupe qui s'appelle Femmes pour le dire, Femmes pour agir du côté de la France, en espérant que ça ouvre des yeux.
Oui, ben, c'est quelque chose dont nous avions parlé d'ailleurs le printemps dernier, là, les violences faites aux femmes en situation d'handicap. Et c'est quelque chose auquel nous allons nous attaquer à nouveau. Ben, sur ce, Madame Campagna, je vous remercie. Vous êtes notre historienne et en même temps notre chef de pupitre de l'actualité. Je remercie aussi Nicolas Wartmann, qui est très bon pour découper les bonnes chansons, pour en faire d'autres petits morceaux qui sont aussi très bons. Alors, merci Nicolas. Et on se reparle la semaine prochaine à 100 détours, midi lundi prochain. C'est François Beauregard qui vous souhaite une belle journée.